VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Bonjour à tous, il est 10h en temps universel. Le Parlement sud-africain a rejeté mardi à une large majorité une motion déposée par le principal parti d'opposition demandant l'organisation d'élections législatives anticipées. L'Alliance démocratique espérait ainsi pousser vers la sortie le président Jacob Zuma, fragilisé par les scandales de corruption à répétition, sans attendre le scrutin présidentiel programmé en 2019. Mais la motion a été rejetée par 229 voix contre 83 et 7 abstentions. Mali, les auteurs de violations de l'accord de paix d'Alger ou ceux qui s'en prendraient au casque bleu déployé dans ce pays pourraient faire face à des sanctions. Le président, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté hier une résolution en ce sens au moment où deux soldats de la paix perdaient leur vie dans le nord-est du Mali. Les précisions d'Abdourahmane Dia.
Selon la mission des Nations Unies au Mali, les deux casques bleus ont été tués lorsque leur véhicule a heurté une mine ou un engin explosif. Dans un communiqué, la MINUSMA explique qu'un véhicule faisant partie d'un convoi logistique a heurté une mine ou un engin explosif à environ 15 km d'Aguelok, dans la région de Kidal, alors qu'il se rendait en direction de Tessalit, dénonçant du coup ces actes terroristes destinés à paralyser les opérations et la mise en œuvre du mandat onusien. Quelques heures plus tôt, le Conseil de sécurité de l'ONU avait adopté à l'unanimité une résolution créant un régime général de sanctions pour le Mali, où les attaques contre l'armée malienne et les positions des casques bleus se multiplient. Le texte prévoit la possibilité d'interdiction de voyage et de gel d'avoir contre les auteurs de telles violations. Cependant, la résolution ne cite pas directement les individus et entités visées.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, des législateurs clés appellent à l'adoption d'un projet de loi pour protéger quelques 800 000 Dreamers, c'est-à-dire des jeunes en situation irrégulière après être rentrés dans le pays en bas âge en compagnie de leurs parents. Le président Donald Trump a décidé de mettre fin au programme de son prédécesseur Barack Obama qui permet à ces jeunes gens sans papier d'étudier et de travailler sur le sol américain. Le Congrès doit trouver un compromis sur ce dossier avant le 5 mars 2018. Emilio Viano, professeur de sciences politiques à l'American University à Washington, analyse les intentions du président Trump.
Le président était très intelligent à le mettre dans les mains du Congrès. Pourquoi? Parce qu'il veut, d'un côté, maintenir la pureté de ses promesses, de son message à ceux qui ont voté pour lui. Si le Congrès ne passe pas une loi dans les prochains 6 mois, je dois agir parce qu'on doit faire quelque chose. Si le Congrès approuve une loi qui signifie l'expulsion de ces jeunes gens, il peut toujours dire « je demandais l'opinion des élus du pays, je ne l'ai pas fait moi-même ». S'ils ne le font pas, il peut dire « le Congrès n'est pas actif, on ne peut pas compter sur eux, ils sont toujours dans des luttes idéologiques, mais je sois le président, je sois un homme d'affaires, je dois intervenir, je dois faire quelque chose pour sauver le pays et je n'ai pas le choix ».
Emilio Viano, professeur de sciences politiques à l'American University à Washington. Temps martial côté Washington, refus d'une hystérie militaire à Moscou. 3 jours après le dernier essai nucléaire nord-coréen, l'unité internationale face au régime de Kim Jong-un commence à se fissurer, douchant les espoirs américains de nouvelles sanctions internationales rapides. Le président Donald Trump a en tout cas confirmé le ton ferme en vigueur à Washington depuis que la Corée du Nord a revendiqué dimanche l'essai réussi d'une bombe H la plus puissante jamais testée par Pyongyang. Les États-Unis ont menacé dimanche le régime de Kim Jong-un d'une réponse militaire massive. Le pape François est attendu aujourd'hui en Colombie, un messager d'une paix encore fragile. La visite du souverain pontife intervient à un moment crucial après l'accord de paix conclu l'an dernier entre le gouvernement de Bogota et la guérilla marxiste des FARC et le cessez-le-feu temporaire annoncé lundi par l'autre guérilla, celle de l'ELN, non signataire de l'accord. La guerre civile qui a ravagé la Colombie pendant 52 ans a fait quelque 260 000 morts, 45 000 disparus et 6,9 millions de personnes déplacées. François est le troisième souverain pontife à se rendre en Colombie après Paul VI en 1968 et Jean-Paul II en 1986. L'atterrissage de l'avion transportant le pape François est prévu à Bogota à 21h30 GMT.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Jacques Attil.